France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Docteur, vous y connaissez, vous, un cancer?
Mais ça consiste en quoi?
Le cancer, les cancéreux, les cancérologues et les guettés de l'escadron métastasique venaient bien sûr en bonne position.
Fumer donne le cancer donne la mort donne à réfléchir.
Il n'y a aucune raison pour que d'ici 15, d'ici 20 ans, le cancer ne soit pas vaincu, soit par un nouvel antibiotique, soit par un autre produit chimique. À mon avis, c'est plus même qu'un espoir, c'est presque une certitude.
Il n'y a aucune certitude dans la lutte contre le cancer. Cette maladie est connue depuis toujours. Pourtant, il n'existe pas de traitement unique et universel contre elle. De multiples stratégies thérapeutiques ont vu le jour. D'abord à tâtons, avec la chirurgie, la radiothérapie, puis la chimiothérapie. Des moyens souvent très agressifs pour des résultats relativement modestes. C'est finalement la meilleure compréhension de la biologie derrière le cancer qui permettra d'obtenir des thérapies plus ciblées, chaque innovation théorique faisant naître une innovation thérapeutique. Mais quelle est la place du patient dans cette maladie longtemps pensée comme incurable? Comment s'est organisée la lutte contre le cancer? Comment la découverte du cancer a-t-elle changé le monde? Pour nous raconter cette histoire plurielle, j'ai le plaisir de recevoir Lucie Laplane. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en philosophie de la biologie à Gustave Roussy et à l'Institut d'Histoire de Philosophie des Sciences et des Techniques. À nos côtés également, Éric Solari, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à la faculté de médecine de l'Université Paris-Saclay et vice-président de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Et pour compléter notre plateau, Benjamin Derbez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sociologie à l'Université Paris 8 et co-auteur du livre « Sociologie du cancer » aux éditions La Découverte. Il y a de multiples histoires dans l'histoire du cancer, une histoire technique, une histoire médicale, une histoire sociale. Nous allons aborder tout cela durant cette émission. Et pour commencer par le début et la découverte du cancer, en fait, il n'y en a pas à proprement parler. On est d'accord, Éric Solari, parce que cette pathologie, finalement, on la connaît depuis toujours.
Oui, on la connaît depuis toujours. On en trouve des traces même chez les hominidés, avant même que Homo sapiens existe. Et puis, elle a été, vous savez que le terme a été défini à l'époque d'Hippocrate, par Hippocrate d'ailleurs lui-même. Voilà.
400 ans avant notre ère.
Avant notre ère.
Ouais, krakinos, crabe en grec. Et c'est en fait par l'aspect en fait finalement de ces tumeurs qui sont plutôt externes pour le coup.
Oui, oui, c'est ça. Au départ, il a décrit des tumeurs du sein, mais ensuite, Hippocrate avait déjà fait une classification des tumeurs par organe, qui reste encore très dominante actuellement. Et puis, il avait même proposé une théorie physiopathologique en décrivant déjà une rétention d'humeur, ce qui a été largement repris par la suite. Et une théorie qui restait valable pendant 2400 ans.
C'est un enjeu quand même fondamental de comprendre que dans la médecine occidentale, il y a ce jeu des humeurs et que le cancer est une manifestation en fait de cela parce qu'on n'a pas d'autres moyens de pouvoir l'étudier encore à ce moment-là et pendant des siècles de fait.
Voilà, exactement, pendant des siècles. Bon, en fait, il y avait deux raisons. La première, c'est que le cancer n'était pas la maladie dominante de l'époque qui était quand même dominée par les maladies infectieuses. L'espérance de vie n'était pas assez long pour que ce soit la maladie principale. Et puis, effectivement, on n'avait pas les outils et la technologie pour essayer de mieux comprendre ce que c'était cette maladie, même s'il y a eu beaucoup d'essais, d'observations, de théories qui ont émergé au cours des années, mais aucune qui remettait en cause l'hypothèse de la rétention d'humeur.
Et ce qu'on comprend assez rapidement dans cette histoire, Lucie Laplane, c'est que ce n'est pas une maladie uniquement humaine, parce qu'en fait, c'est une maladie de la multicellularité.
Oui, alors c'est un programme de recherche qui est ouvert, mais on a cette idée maintenant de plus en plus forte dans la communauté scientifique que il y a des cancers qui ont été observés hors de l'espèce humaine et en fait dans de très nombreuses espèces, y compris dans des restes d'espèces perdues.
Comme des dinosaures, j'avais des dates d'ostéosarcome, justement, donc c'est des tumeurs des os, et c'est parce que c'est les os qui nous restent, en fait, fossilisés, donc c'est notre seule fenêtre, en fait, pour voir ça, c'est ça?
Exactement. Donc il y a des indices qu'on retrouve des cancers ou des tumeurs dans de très nombreuses espèces, y compris les plantes, avec une question plus générale de est-ce que c'est absolument tous les êtres vivants, et plus précisément absolument tous les êtres vivants multicellulaires qui sont sujets au cancer, et à cette hypothèse que la multicellularité en fait porte en elle-même le risque du cancer.
Et c'est une maladie qui est aussi longtemps considérée comme incurable. Donc j'ai compris que les premiers hôpitaux dédiés ne sont finalement que des mouroirs. Benjamin Derbès, est-ce que le patient n'a pas vraiment de valeur sociale avant très très tard, en fait? On sait que cette maladie est incurable, donc est-ce qu'on lutte en fait vraiment avant 1850?
Bah, pas vraiment. Effectivement, le cancer est pas véritablement curable. Alors on a quelques récits d'exérèses chirurgicales. Donc il y a des chirurgiens qui tentent quand même des traitements et qui parfois réussissent quand ils tuent pas le malade dès le Moyen Âge. Voilà, puisque il y a des problèmes d'infection post-opératoire, etc. Donc pendant très longtemps, effectivement, comme le disait Eric, il y a pas vraiment de cure, et par conséquent, les malades sont un petit peu abandonnés. Hein. Et parfois ils sont recueillis. Alors le premier hospice charitable, il a été créé à Reims en 1742 par un chanoine. Donc on est dans l'ordre de la charité chrétienne. Voilà, il faut donner des soins aux incurables. Et c'est seulement à partir du moment où la chirurgie progresse, où on commence à vraiment pouvoir obtenir des résultats thérapeutiques, que on parle de valeur sociale du malade et qu'il devient socialement rentable, disons, d'investir dans les soins des malades du cancer. Mais ça, c'est le XXe siècle.
Et il y a une innovation aussi, finalement, technique qui permet de commencer à traiter les patients atteints de cancer. On est autour de 1860. Il faut que la chirurgie puisse être faite. Donc, il faut les méthodes d'antisepsie et d'anesthésie. Éric Solari.
Oui, là, il y a eu une convergence au milieu du 19e siècle entre les progrès de la microscopie qui ont permis de changer de paradigme, de concept. Hein, le cancer devenait effet de cellules et non pas d'humeur. Et puis, en même temps, les progrès, surtout aux États-Unis à l'époque, de l'anesthésie et de l'asepsie, qui ont permis de développer la chirurgie à partir de cette période, ouais, du milieu du 19e.
Et un personnage qui est important et que vous aviez tous les trois en fait cité pendant la préparation de cette émission, c'est William Halsted, qui était chirurgien américain et qui développe une forme de mastectomie radicale. Donc radicale, ça veut dire que finalement on enlève tout le sein, Lucie Laplane. C'était sa technique et sa méthode.
Oui, sur ce sujet, je suis peut-être pas la...
Alors, un doué, Eric Solari.
Je peux rebondir, mais effectivement, ce qui est intéressant dans l'histoire d'Halsted, c'est donc ce chirurgien américain qui a développé une chirurgie du sein, finalement, qui sera utilisée pendant très longtemps, pendant des décennies, et qui était très invalidante, c'est qu'elle se basait sur une conception qui est que le cancer évolue en progressant par contiguïté. C'est-à-dire, il part d'un endroit et il avance petit à petit dans les tissus environnants, qui s'opposait à la théorie de la migration par voie sanguine ou lymphatique des cellules cancéreuses partant dans un autre tissu.
Ça veut dire que les deux théories étaient à ce moment-là...
Oui, les deux théories existaient, mais Halsted a eu plus de talent pour communiquer sur sa vision, et son mode opératoire s'est imposé pendant des décennies.
Mais ça veut dire qu'il obtenait aussi des résultats, j'imagine, parce que ça ne vient pas de rien non plus, Éric Solari.
Pas tant que ça, en réalité. C'est-à-dire qu'il imposait, c'était tout le problème de cette chirurgie très mutilante, avec des effets secondaires importants, beaucoup de souffrance pour les femmes qui étaient opérées.
Il faut dire qu'il enlevait aussi une partie très importante tout autour, en fait,
pectoral.
Du muscle.
Et il y avait un œdème du bras qui était séquelaire quasiment tout le temps, puisqu'il avait tous les ganglions de drainage en même temps. Donc voilà, c'était une chirurgie très mutilante. Bon, évidemment, il pensait bien faire, jusqu'à ce qu'on arrive à mettre en place des études de phase 3 randomisées où on s'est aperçu qu'une chirurgie moins mutilante faisait aussi bien en termes de survie et beaucoup mieux en termes de moindre souffrance, on va dire.
Est-ce qu'il y a une connaissance à ce moment-là aussi des métastases, en fait, Lucie Laplane? Est-ce que on voit, en fait, j'ai cru comprendre que Halsted avait justement ne croyait pas vraiment aux métastases et à ce lien-là, en fait, avec la sévérité de la maladie?
Oui, alors c'était confus à l'époque. Donc à partir de l'émergence de la théorie cellulaire, il y a vraiment cette hypothèse que les cancers proviennent d'une origine cellulaire et se développent par division cellulaire. parmi les hypothèses qui ont été proposées à cette époque, il y avait l'idée que ces cellules pouvaient être délocalisées par rapport à leur origine embryonnaire. Mais sur la question des métastases, c'était un champ très ouvert. Et donc, une des théories, c'était celle de progression par contiguïté. Il y en avait d'autres qui soutenaient plutôt une conception métastatique plus proche de la lecture qu'on a aujourd'hui. Mais à l'époque, le champ était très ouvert.
Et on avait peu de moyens, de méthodes aussi pour pouvoir les analyser en termes de culture cellulaire, de voilà tous les outils en fait qu'on a aujourd'hui. On ne pouvait pas, par exemple, reproduire ces faits-là en laboratoire.
Oui, on n'avait pas non plus les modèles qu'on a utilisés ensuite beaucoup au XXe siècle, tous les modèles animaux qui se sont développés, qui ont permis de mieux comprendre, même si la théorie, elle était là même depuis le XVIIIe siècle, même à l'époque où c'était une rétention d'humeur, il y a un chirurgien français, Ledran, qui déjà imaginait le concept de migration de la maladie dans d'autres tissus. Donc, il y avait des observations, les médecins, les chirurgiens regardaient ce qui se passait, et chacun avait son interprétation, mais aucun élément pour consolider telle ou telle vision de la maladie.
France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
La seconde méthode qui voit le jour a lieu à peu près 50 ans plus tard, c'est le traitement par rayon X qui commence en 1896. Ce qui nous a aussi un petit peu intrigué quand on a fait préparer cette émission, c'est que finalement, dès sa découverte, on la transpose pour tenter de traiter en fait les patients atteints de cancer. Comment est-ce qu'on explique justement cette transposition qui est extrêmement rapide, Eric Solari?
Je suis d'accord avec vous qu'elle est très surprenante, cette transposition rapide. Puisqu'il a fallu une quinzaine d'années quasiment pour la mettre en place en termes de thérapeutique. Je pense qu'on était au début de... Alors, les développements technologiques étaient en train de se faire. La microscopie se précisait. On commençait à avoir des colorants pour mieux voir les cellules. On avait la notion qu'elles se divisaient, comme Lucie l'a évoqué tout à l'heure. Et donc, très vite, on s'est aperçu que peut-être les radiations interagissaient avec cette division cellulaire, que c'était peut-être un moyen de traiter. Donc, il y a eu une forme d'empirisme assez forte, je pense, à l'époque, pour mettre en place ça. Claudius Regaud, qui a donné son nom au Centre de lutte du cancer de Toulouse, est un des précurseurs qui avait commencé à développer cette approche. Mais je partage votre surprise, la mise en place est incroyablement rapide par rapport aux autres.
Benjamin Dabrest, vous avez aussi des hypothèses quant à la raison en fait d'une transposition si rapide en fait de cette technique en fait à une pathologie, à son traitement.
Ouais, ben je pense qu'il faut remettre ça aussi dans la longue durée et dans le fait que la chirurgie a pas été le seul moyen par lequel on a essayé de traiter depuis longtemps les cancers, mais aussi les caustiques. Hein. On a essayé de d'attaquer parfois avec de l'arsenic, voilà, de brûler. Hein. Le fer et le feu.
Comme la cautérisation d'une plaie, par exemple.
Exactement, sur le même principe. Et par conséquent, je pense que ça s'inscrit dans ces essais empiriques de traitement par le feu. Et sachant que les rayons X, ils ne sont pas utilisés uniquement contre le cancer au début. Hein, c'est sur les maladies de la peau, lupus, etc. Donc, le cancer, c'est une maladie parmi d'autres sur lesquelles on essaye les rayonnements, en fait. La deuxième hypothèse, c'est que il y a aussi une sorte de convergence d'éléments qui font qu'on découvre l'effet des radiations, plein de substances radioactives au moment où le cancer devient en fait une maladie plus visible socialement, avec la tuberculose et la syphilis. Mais voilà, au tournant du 19e, du 20e siècle, c'est le moment où on s'aperçoit en fait que, bon, la longévité faisant sa croissance, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un fléau parmi d'autres.
Et c'est intéressant de voir qu'on voit qu'il y a des effets en fait des rayons X indirectement qui peuvent provoquer des cancers et qu'on essaie quand même de traiter cela en fait et de traiter les cancers avec ça.
Oui, bah, je pense qu'il y avait peut-être même une forme de naïveté. On imaginait que ça allait traiter comme énormément de choses. On a quand même fabriqué des gaines au radium pour faire maigrir. Donc on a inventé beaucoup d'outils à partir des radiations en imaginant que ça allait résoudre énormément de choses et peut-être qu'on ne mesurait pas les risques à l'époque. Donc l'utilisation des radiations en thérapeutique, elle rappelle un peu aussi les débuts de l'utilisation de l'atome en tant qu'arme. Il y a beaucoup c'est un peu les pieds nickelés utilisent des radiations, quoi. C'est un peu dans tous les sens. Voilà, évidemment, maintenant, c'est extrêmement maîtrisé, mais on parle plus du tout de la même chose.
Il y a le troisième moyen de lutte qui vient aussi, lui, 50 ans plus tard, en fait, avec la chimiothérapie. En fait, finalement, c'est la Première Guerre mondiale qui va donner un coup d'accélérateur. Est-ce que vous pouvez me raconter vous me dites non de la tête, Éric Solari, est-ce que vous pouvez commencer à me raconter un petit peu, finalement, comment la Première Guerre mondiale va donner un coup d'accélérateur, en fait, à la chimiothérapie et ce lien entre, finalement, gaz moutarde et les premiers traitements de chimiothérapie?
Oui, alors, comme le disait Benjamin tout à l'heure, au début du XXe siècle, dans les différentes tentatives, il y a eu la radiothérapie, mais il y a eu aussi des tentatives de médicaments, d'attaques chimiques, en quelque sorte, du cancer.
Comme pour toute maladie, en fait.
Voilà, comme beaucoup de maladies, et en particulier avec l'arsenic, la liqueur de Fouling, etc., qu'on a ressorti au XXIe siècle, en fait. Et au-delà de ça, il y a eu l'utilisation de la chimie pour générer des armes toxiques, en particulier les fameux gaz utilisés dans les tranchées d'Ypres, et la bataille d'Ypres est très connue à ce propos. Quelque temps après, les gaz ont été réutilisés pour bombarder, je ne sais plus exactement dans quel contexte historique, mais la ville de Bari, au sud de l'Italie. Les médecins américains sont venus pour soigner les victimes, et ont constaté que toutes ces victimes n'avaient plus de globules blancs. Et donc, ils se sont posé la question de ce qui s'était passé, et ils sont repartis avec les armes chimiques, et ont travaillé dessus pendant un certain nombre d'années, jusqu'à pouvoir les utiliser, ou utiliser en fait des dérivés, évidemment, à des doses compatibles avec la vie humaine, et avec des effets thérapeutiques sur les leucémies au départ, et c'est comme ça qu'est émergée la chimiothérapie dans les années 50.
Comme je disais, c'est quand même un coup de projecteur, Benjamin Darbès, parce qu'on avait déjà commencé à travailler sur des molécules chimiques avant ça. C'est-à-dire l'essor de la chimie n'a pas attendu d'avoir la Première Guerre mondiale pour pouvoir voir justement des effets.
Non, tout à fait. Oui, Éric le disait très bien. Il y avait des programmes de screening moléculaire déjà aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale, donc avant les
screening
de
moléculaire
Barry.
De recherche.
Donc voilà, on criblait, en fait, on passait en revue toutes les molécules qu'on connaissait, puis on voyait s'il y avait des effets thérapeutiques en éprouvette sur les cellules. Après, le passage à l'homme, c'était autre chose. Et le passage à l'homme, effectivement, là, c'est 1948 seulement pour la leucémie. Donc, voilà. Et après, il y a eu un essor formidable, surtout aux États-Unis, soutenu par l'Association américaine de lutte contre le cancer. Financièrement, donc, l'essor des chimiothérapies, c'est effectivement l'après-Seconde Guerre mondiale, avec aussi le même paradoxe que pour que vous souleviez tout à l'heure, que pour la radiothérapie, c'est-à-dire
la
que
rapidité.
La violence et puis le fait que c'est toxique, une toxicité. Donc, c'est le propre du médicament, le pharmacone, c'est à la fois ce qui guérit, mais ce qui aussi est un poison. Et c'est valable pour la radiothérapie comme pour la chimiothérapie. Donc il faut apprendre à maîtriser, à trouver les bonnes doses, les bonnes associations, les meilleures conditions de traitement. Et ça, c'est tout le travail qui a été réalisé par les cancérologues ensuite.
Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, on retrouve une forme d'agressivité dans toutes les thérapies, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. En fait, la démarche initiale, c'est d'avoir quand même la thérapeutique un peu la plus toxique, Lucie Laplane. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toute cette histoire, en fait, finalement.
C'est effectivement un lien commun de cette histoire et elle est en partie associée à la théorie cellulaire du cancer. Donc à cette observation que le cancer est une maladie de la dérégulation de la division et de la surprolifération des cellules cancéreuses. Et donc ce qui était cherché dans ces différents poisons, c'était leur capacité à éradiquer les cellules en forte prolifération. Et c'est ça qui explique ce phénomène étrange qu'on utilise des choses qui ont été observées comme étant toxiques et même létales en se disant à d'autres doses on pourrait peut-être traiter des leucémies dont on sait aussi que le problème c'est qu'elles prolifèrent trop.
Et c'est un peu la base en fait finalement de la radiothérapie, c'est de cibler justement l'ADN, de casser l'ADN des cellules qui sont en train de se faire.
Exactement.
Alors que l'enjeu de la chimiothérapie, il est un peu autre, il est un peu plus général.
où il se base aussi sur une question de la théorie cellulaire et de ce lien.
Bah, je dirais qu'il se base aussi sur la théorie cellulaire en ce sens que les chimiothérapies sont également principalement efficaces sur les cellules en prolifération cellulaire, en division, pardon.
Donc il y a tout cet enjeu en fait de pour les thérapeutiques de distinguer en fait la bonne cellule de la mauvaise cellule. C'est un petit peu l'enjeu général. J'aimerais vous entendre aussi, Eric Solari, sur cette question d'agressivité en fait et de force finalement de toutes ces thérapies. En chimiothérapie, on parle de dose maximum tolérée, donc c'est ce que ça veut dire en fait, c'est la dose la plus efficace sans que le patient ne meure.
Oui, exactement. À partir du moment où on veut détruire les cellules qui prolifèrent, on élimine un certain nombre de cellules cancéreuses qui prolifèrent. On savait pas forcément au départ que certaines d'entre elles proliféraient moins que les autres. Donc, en fait, il y avait un certain niveau d'hétérogénéité. Donc, on sélectionnait les cellules qui proliféraient le plus. Et au passage, on éliminait aussi d'autres cellules normales qui prolifèrent beaucoup par nécessité dans notre organisme. Donc, on n'était absolument pas sélectif, ou pas assez sélectif. Et d'autre part, on était quand même obligé d'aller aux limites de la toxicité pour avoir une réelle efficacité thérapeutique. Donc, c'est la chimiothérapie qui reste quand même très largement utilisée dans le traitement des cancers aujourd'hui et est une solution thérapeutique qu'il faut manipuler avec beaucoup de doigté pour ne pas avoir cette toxicité, ces effets secondaires importants, qu'on maîtrise mieux maintenant, mais quand même.
Et dans cette histoire, il y a chaque thérapie qui tente aussi d'être perfectionnée. C'est pas parce qu'on explique que ça a été découvert à un moment que ça n'a pas bougé en fait pendant des années. Je voudrais qu'on écoute une archive un tout petit peu plus tardive. On est en 1950, la télécurithérapie.
Eh bien, vous voyez cette grosse sphère de plomb, c'est ce que nous appelons un appareil de télécurithérapie, c'est-à-dire un appareil permettant des applications de radium à distance. Grâce à la générosité de la société belge du Haut-Katanga, il contient 10 grammes de radium, quantité déjà considérable, mais qui aurait été accrue si nous avions eu la possibilité financière d'établir des moyens de protection efficaces contre le rayonnement. En effet, cette masse de radium produit un rayonnement constant qui serait nocif pour les médecins et le personnel infirmier s'il y était exposé à longueur de journée. L'appareil actuel est constitué de telle manière que la protection est assurée vis-à-vis des 10 grammes de radium qu'il contient. Vous voyez qu'un dispositif spécial permet l'ouverture d'un volet au moment de l'irradiation d'un malade. Sans doute allez-vous me demander si nous voyons et si nous obtenons des résultats meilleurs par cette méthode. Eh bien, en vérité, pour certaines localisations de cancer particulièrement rebelles, les bons résultats paraissent plus constants, mais dans l'ensemble, ils ne sont pas très supérieurs, du moins pour la quantité de radium que nous possédons, à ceux de la Röntgenthérapie à haut voltage.
Simone Laborde de l'Institut Gustave Roussy dans un reportage de Ainsi va le monde, une archive de l'INA. On entend les limites encore techniques, on entend les limites de financement en fait de ces traitements, mais ce que je trouve assez saisissant, voire déconcertant, c'est qu'elle explique qu'il n'y a pas tant d'efficacité que ça, Eric Solari. C'est une réaction à cette archive.
Oui, mais je trouve que ça reflète bien l'état d'esprit de l'époque dans lequel on avait quand même très peu d'armes pour lutter contre cette maladie. Et donc, il y a eu de multiples tentatives d'améliorer les choses dont on disposait. Et c'est un exemple de tentative d'amélioration. On voit bien aussi que dans la méthodologie, c'est assez approximatif. Bon, maintenant, on utiliserait des essais très structurés avec des analyses statistiques sophistiquées pour essayer de savoir si on est efficace, si on l'est pas, pour essayer d'être plus solide. Là, on est un peu sur le subjectif. Voilà la perception, au cas par cas.
Et est-ce que, dès ce moment-là, il y a déjà une sorte de combinatoire des différents modes de traitement dont on a parlé, en fait? Entre chirurgie, entre chimiothérapie, entre radiothérapie et celle qui en dérive.
Alors oui, jusqu'en 2000, c'était les trois armes dont disposaient les oncologues. Et donc, le traitement commençait, et commence encore souvent, mais peut-être c'est plus forcément le commencement par la chirurgie. On rajoutait de la radiothérapie en contrôle de régional et on utilisait la chimiothérapie en se disant que ça allait éliminer les cellules qui auraient pu circuler. C'est à peu près la philosophie. Et puis on combinait ça comme on pouvait. On améliorait d'année en année. On améliorait les choses d'année en année. On voyait les courbes de survie s'améliorer, mais très lentement.
Est-ce qu'il y a eu des tendances à utiliser plus l'une que l'autre en fonction de... Si on part entre 1950 et les années 2000
Disons que...
Parce qu'on a l'impression que c'est un peu du cas par cas, en fait, quand on le dit comme ça.
Non, je pense qu'une fois qu'on dispose d'une méthode thérapeutique en oncologie, en fait, tout le travail est de l'améliorer et de l'utiliser au mieux. Donc les chirurgiens ont travaillé sur une chirurgie moins mutilante, une chirurgie réparatrice, etc. Les radiothérapeutes n'ont cessé d'améliorer les machines et travailler avec les physiciens pour avoir des machines de plus en plus précises et de moins en moins toxiques. Et la chimiothérapie, c'était la même chose. Les oncologues ont travaillé à améliorer les doses. Donc, tout progresse ensuite. Une fois qu'un mode thérapeutique est installé, tous les modes thérapeutiques progressent ensemble. Et la question, c'est comment on les combine, comment on les associe. Et il y a beaucoup de travail à faire pour trouver le bon ordre d'utilisation de ces différents traitements.
Un bon dosage. Benjamin Derbez, qui traite finalement ces patients? Quand est-ce que la cancérologie devient vraiment une spécialité médicale? Ça ne se fait pas tout de suite.
Alors ça, c'est une réponse compliquée parce que l'oncologie médicale est effectivement une sous-spécialité qui apparaît assez récemment, en fait, dans les années 80, si je ne me trompe pas, en France. Mais la cancérologie, en fait, c'est la chirurgie, la radiothérapie. Il y a des chirurgiens, voilà. Donc, c'est une discipline qui est... une spécialité qui est multidisciplinaire. Et voilà, les centres de lutte contre le cancer ont été pensés dès l'origine, dans les années 1920, comme des centres de traitement pluridisciplinaire. Donc, on commençait, même si, effectivement, l'idée, c'était quand même de développer la radiothérapie beaucoup dans ces centres au départ, c'était d'articuler au mieux ces choses-là. Et puis, avec l'apparition des chimiothérapies, ben, y a le rêve d'avoir cette... Magic bullet, comme on parle, comme disaient les Américains, c'est la pénicilline du cancer. Voilà.
C'est le traitement
c'est
unique.
Le traitement unique qui va guérir tous les cancers. Et finalement, en fait, on s'aperçoit que il y a des petits, c'est une petite des petits pas. Il y a des petites améliorations en fonction des cancers, etc. Il faut associer les drogues. Il faut effectivement parfois faire une chimiothérapie avant la chirurgie. Donc ça, il faut réfléchir à comment on articule tout ça. Et c'est ce qui a donné cette culture en cancérologie, cette culture de l'essai clinique, quoi, de l'expérimentation, où on a un nombre de d'essais cliniques qui est fabuleux en cancérologie, parce qu'il y a un nombre de drogues fabuleux et voilà,
un champ des possibles,
et puis un nombre de maladies. Maintenant, ce qu'on le découvre, c'est que tous les cancers sont extrêmement différents, mais bon, ça, Lucie le sait mieux que moi.
On va en parler avec vous, Lucie Laplane. Comment est-ce qu'on avance finalement sur la connaissance sur la nature du cancer à partir de ces époques-là, donc entre les années 50 à 2000? N'allons pas trop vite, n'allons pas trop loin dans ces questions-là, mais comment est-ce qu'on avance? Parce qu'on a des traitements qu'on teste avec ou sans essais cliniques, on commence à avoir ce poids statistique, mais qu'est-ce qu'on connaît de la biologie finalement du cancer? Est-ce que c'est pas un peu tardif?
En fait, c'est une période de temps, ce siècle-là, où les choses ont énormément évolué. Donc, au début du XXe siècle, il y a beaucoup d'hypothèses sur le cancer. Donc, il y a la théorie cellulaire, mais il y a des hypothèses virales, il y a des hypothèses microbiennes. Il y a énormément d'hypothèses qui sont évaluées en parallèle.
Hypothèse virale qui n'est pas totalement fausse, parce que ça existe pour certains cancers.
C'est exactement. Bah, de manière générale, en fait, toutes les hypothèses sont partiellement vraies. Mais donc du coup il y a beaucoup d'hypothèses différentes et en fait on voit un progrès en cancérologie qui est indexé à ce qui se passe en biologie. Donc tout ce qui se passe en biologie se trouve avoir des effets pour la cancérologie et un peu vice versa. Et cette histoire de pénicilline du cancer, elle est très révélatrice de ces liens qui sont faits entre les progrès de la biologie et ceux de la cancérologie.
Comment la recherche scientifique contre le cancer vient à être financée? Quel est le rôle des associations et des patients dans cette lutte? C'est la suite de notre programme juste après ça.
Bateau, mène-moi à Valparaiso. J'en ai assez du parc Monceau, de ses bassins, de ses jets d'eau, de ses enfants exaspérés traînés dans la suie de l'été. Et se noyer, pour se noyer, la mer serait moins étriquée. Oh ma folie, mon beau flacon, donne-moi d'étranges poisons. J'en ai assez du postillon, et des litrons, et des graillons, et des serveuses de café qui attendent d'être mangées. Et s'assommer pour s'assommer, il vaut mieux être foudroyé. Oh ma folie, ma belle fièvre, mène-moi sur d'affreuses grèves. J'en ai assez d'air de sève, où les vieillards doucement crèvent dans l'indifférence et l'ennui, comme si ça n'était pas leur vie. Et se flinguer pour se flinguer, j'aime mieux les pestiférer. Recouvre-moi de fleurs de fer, de l'atelier de Lucifer. J'en ai assez des infirmières, de cette fondation Curie qui est le monde d'aujourd'hui. Et être cuit pour être cuit, il vaut mieux que ce soit joli.
Le beau cancer de Brigitte Fontaine sur France Culture. Vous écoutez les découvertes scientifiques qui ont changé le monde avec aujourd'hui la découverte du cancer en compagnie de Lucie Laplane, chercheuse en philosophie de la biologie à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques, et à Gustave Roussy, Éric Solari, professeur émérite à la Faculté de médecine de l'Université Paris-Saclay et vice-président de la Fondation Arc pour la recherche sur le cancer, et Benjamin Derbès, maître de conférence en sociologie à l'Université Paris 8 et co-auteur du livre Sociologie du cancer aux éditions sur la découverte.
Les premiers tracts diffusés par la Ligue française contre le cancer, après sa création par M. Justin Godart en 1918, faisaient mention de 40 000 Français tués annuellement par cette maladie. Aujourd'hui, c'est de près de 100 000 dont on nous parle. Mais qu'a-t-on fait pour aider les laboratoires où se recherchent les causes et les moyens efficaces de guérison ? Leurs subventions n'ont pas été proportionnellement augmentées, certaines ont même été réduites. Combien d'exemples ne pourrait-on pas citer de découvertes faites par des chercheurs français, mais interrompues faute de crédit, et dont les applications fructueuses, trouvées ensuite à l'étranger, ont coûté, pour être introduites en France, des sommes considérablement plus élevées que celles qui eussent permis d'achever et d'exploiter la découverte commencée. N'en sera-t-il pas un jour de même pour le cancer ?
Une allocution d'Antoine Lacassagne, professeur au Collège de France, une archive de l'INA de 1954. On entend, Éric Solari, la nécessité de financement massif. À partir de quand il y a un financement massif de la recherche sur le cancer ? À partir de quand ça devient finalement une sorte de priorité ?
La société civile s'en est emparée tôt. On a rappelé, hein, 1917, la création de la Ligue franco-américaine contre le cancer, qui est devenue la Ligue nationale contre le cancer, puis l'ARC en 62. Mais en fait, bien sûr, entre-temps, il y a eu les centres de lutte contre le cancer.
Il y en avait déjà.
Ça a émergé. Mais tout ça s'est fait très doucement. En fait, le vrai plan cancer politique date de 2003, Jacques Chirac, qui a lancé le premier plan cancer. Et si on continue, l'Europe s'est emparée du sujet en 2021 avec une mission cancer et un plan européen contre le cancer. Donc le public a été un peu en retard sur la société civile, je veux dire.
Et quel est le rôle justement des associations de lutte contre le cancer, Benjamin Derbès, dans cette histoire ? On entend donc du coup 1917 ou 18, c'est ce que vous disiez sur la Ligue franco-anglo-américaine. Donc on voit que déjà il y a beaucoup de monde derrière tout ça.
Ouais, franco-anglo-américaine, parce que en fait, Antoine Lacassagne parlait de Justin Godart. Là, c'était l'équivalent du ministre de la Santé pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, il voulait donner une dimension internationale et continuer un peu la collaboration entre les alliés dans cette ligue. Bon, c'est devenu rapidement la ligue, une ligue nationale, parce que en Angleterre et aux États-Unis, il y avait aussi des ligues qui se sont créées, et même qui étaient parfois créées avant celle de la France. Donc il y avait des effets de concurrence, donc ça a pas vraiment duré. Mais la ligue, elle a financé pas mal de choses. Elle a soutenu déjà le plan Bergognier de 1922, qui prônait la création des centres de lutte contre le cancer. Donc elle a eu un rôle assez important à ce niveau-là. Et puis, effectivement, ensuite, l'ARC a pas mal financé, même si, bon, après, on s'est aperçu que tous les financements n'allaient pas directement aux chercheurs, mais, contribuer à soutenir la recherche.
Donc, et la recherche fondamentale en général. Parce que
alors, recherche fondamentale en général, voilà. Et donc, là, on peut dire que la société civile a effectivement soutenu la recherche, mais elle a soutenu aussi les malades. Elle a soutenu les malades parce que la Ligue a eu a continué un peu l'œuvre des Dames du Calvaire, hein, qui avait été fondée par Jeanne Garnier, hein, à Lyon au XIXe siècle, donc pionnière des soins palliatifs, donc des soins aux incurables, parmi lesquels beaucoup de cancéreux. Et donc, il y avait un soutien social qui était aussi organisé par la Ligue dès les années 20. Et puis, comme on l'entendait dans l'archive aussi, une propagande, une propagande de la Ligue en faveur de la détection précoce, du diagnostic précoce des cancers. Donc,
parce que si je résume finalement, il y a au moins trois enjeux en fait de ces associations. C'est d'abord le financement, l'information aux patients et donc le dépistage. Parce que j'ai trouvé par exemple dans les travaux de Pierre Darmon, qui était historien, des affichettes justement qui étaient collées dès 1918-19, si je ne me trompe pas, qui expliquaient faites-vous dépister le plus tôt possible, une personne bien portante peut avoir un cancer. Donc il y avait déjà pas mal de questionnements de santé publique en fait relativement tôt.
Bien sûr. On a commencé à parler du cancer dans ces années-là, en fait, à l'afficher. Après, c'était plus compliqué dans la relation thérapeutique, dans le colloque singulier entre le malade et son médecin. Le terme n'était pas forcément employé, mais par contre, au niveau de la santé publique, oui, on a commencé à en parler parce que il y avait un réel espoir. C'était en fait, on voulait porter un message d'espoir parce qu'il y avait des thérapeutiques, donc avec l'idée que plus on prend les choses tôt, mieux c'est. Donc il faut faire du diagnostic précoce et il faut faire passer le message selon lequel les individus sont les premiers à pouvoir détecter un cancer chez eux, qu'il faut pas tarder à les consulter. Ça, c'était le mot d'ordre de l'équivalent de la Ligue contre le cancer aux États-Unis, qui est « do not delay », ne tardez pas. Voilà. Et donc on peut dire que c'était un mouvement international, hein, dans toutes les ligues fonctionnaient sur ce triptyque que vous avez évoqué: information, soutien social et puis soutien à la recherche, en l'occurrence la radiothérapie pour la Ligue française contre le cancer, et aux États-Unis ensuite pour l'ACS pour les chimiothérapies. Ils ont levé des fonds massivement pour soutenir les chimiothérapies.
Un point peut-être sur cette comparaison avec les États-Unis. Donc là, on a compris que justement les associations de lutte ont vu le jour partout à la même période, mais il y a un point particulier avec les États-Unis qui était peut-être plus précoce ou plus fort dans les financements.
Peut-être pas dans la première moitié du XXe siècle, ça j'aurais du mal à le dire, mais en tout cas c'est clair que la Ligue, l'équivalent de la Ligue aux États-Unis à partir de 1945 aux États-Unis, elle devient ultra puissante, notamment parce que c'est une personnalité qui en prend la tête, qui est Mary Lasker, donc qui est la femme d'un publicitaire américain qui est décédé d'un cancer. Qui avait fait d'ailleurs d'un cancer du poumon, si je ne m'abuse, et qui avait pourtant été le promoteur des cigarettes Lucky Strike à l'époque. Et donc elle va investir l'American Cancer Society. En fait, elle renomme l'association existante American Cancer Society, et puis elle va apporter tous ses talents et les talents de ses des amis de son mari dans le marketing, en fait, le marketing sur le marché du don et de la charité publique en faveur du cancer. Donc là, elle va lever effectivement des fonds et des millions de dollars, et s'allier avec le Sidney Farber, qui est le premier à Boston à avoir développé une chimiothérapie, comme on le disait tout à l'heure, quoi, pour les enfants, pour les leucémies des enfants. Et c'est vrai que ça s'est monté en puissance jusqu'en 1970, avec en 1970 un plan Nixon, donc l'équivalent du plan cancer qu'on a eu nous
30
ans plus tard, qui était massif aussi, avec l'idée de soutenir la recherche de thérapie et de vaincre le cancer. L'idée, c'était de vaincre le cancer. Ça a toujours été un peu ça, là, vaincre le cancer dans les 10 ans ou 15 ans. Voilà, c'est l'ambition.
Et sur le rôle aussi des patients eux-mêmes ou de leur famille dans la lutte contre le cancer, j'ai noté un exemple, justement, on parlait en début d'émission de la méthode chirurgicale très radicale d'Alstead, qui a été le standard jusqu'aux années 70, donc pendant 100 ans, il y a eu cette mastectomie assez radicale, et en fait c'est une patiente américaine, aussi journaliste, qui va attirer l'attention, donc il y a un poids super fort en fait des patients qui sont directement touchés par des thérapies qui sont très agressives.
Ouais, complètement. Il y a de nombreuses femmes aux États-Unis qui ont joué un rôle capital dans la lutte contre le cancer, dont Rose Kushner, qui est une journaliste qui a été atteinte d'un cancer du sein et qui s'est élevée contre la mastectomie radicale, qui était la chirurgie standard du cancer du sein à l'époque. Donc, on a dit que c'était très élargi, très mutilant, avec qui occasionne beaucoup de souffrances. Et elle a été, elle a utilisé son savoir-faire médiatique pour médiatiser cette cause. Et elle est, enfin, son travail de mise à l'agenda de cette question a contribué à développer les essais cliniques mastectomie contre tumorectomie qui ont donné effectivement le résultat dont parlait Eric tout à l'heure, et ça c'est assez remarquable. Elle avait d'ailleurs déconseillé à l'époque à Betty Ford, qui était la femme de Gerald Ford, qui avait un cancer du sein, de subir la mastectomie radicale. Et Betty Ford avait choisi la mastectomie radicale et elle l'avait critiquée ouvertement à l'époque. Tout ça pour dire que voilà, c'est pareil, les hommes politiques ou les femmes politiques qui font leur coming out de cancer, c'est pas tout à fait nouveau, voilà, ça date aussi de cette époque.
Et un point en particulier, parce que depuis tout à l'heure on parle justement des cancers, parce qu'il faut tout englober, mais Eric Solari, est-ce que le cancer du sein a une place particulière face aux autres cancers ?
Alors, bon, c'est le plus fréquent, donc évidemment il occupe une place particulière dans la société. En plus, il touche peut-être des femmes qui sont plus jeune que l'âge moyen de survenue des autres cancers. Donc ça fait deux facteurs qui contribuent à mettre en avant cette forme de cancer. Les femmes atteintes de cancer du sein se sont aussi très bien organisées sur le plan sociétal et savent faire parler de leur maladie et comme mobiliser on disait, en fait, autour de leur maladie. Voilà, comme on vient d'en voir des exemples avec Benjamin. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très important autour du cancer du sein, effectivement, qui a contribué à faire beaucoup avancer les choses.
Et Benjamin, tout à l'heure, vous souleviez un fait, mais je vais interroger Eric Solari sur cette question-là. Vous parliez un petit peu du fait qu'on commence à parler en fait du cancer très tôt, de recommander le dépistage. En revanche, dans la relation patient-médecin, c'était pas quelque chose qui était forcément directement formulé. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ce que vous avez dit.
Donc, on parle de prévention et de dépistage il y a un siècle. Est-ce qu'on a vraiment progressé? On a mis en place une politique publique de dépistage qui est relativement mal suivie, ou pas assez suivie en tout cas, pour sûr. Quelques mesures de prévention qui sont très dures à faire passer. Et on a quand même un mal fou à progresser. Et je crois qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est la question. C'est comment on fait basculer la recherche qui est essentiellement centrée sur le traitement des cancers installés, voire des cancers les plus graves, métastatiques, etc., vers une recherche plus active sur la prévention et le dépistage. Quels outils on va pouvoir utiliser? Et en fait, on n'y parvenait pas. Ça n'a pas bougé pendant 100 ans parce qu'on n'avait pas les outils. C'est un peu comme quand on a attendu le microscope. Il nous faut les outils pour avancer. Pour les médecins, ce qui est en train de changer, c'est que pour un médecin généraliste aujourd'hui, suivre ce qui se passe en termes thérapeutiques pour un cancer installé, c'est devenu inaccessible. Il y a tellement d'approches thérapeutiques différentes, de médicaments différents, c'est devenu tellement surspécialisé que c'est impossible. Donc, les médecins généralistes devrait logiquement se repositionner vers la prévention et le dépistage, mais encore faut-il qu'il y ait une évolution de l'organisation de la médecine pour que cela devienne possible. Quel va être le reward sur cet investissement dans la prévention et le dépistage? Et ça, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir collectivement. Mais c'est vraiment comme ça qu'on peut progresser.
France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbeau.
Nous arrivons dans la dernière partie de notre émission et j'aimerais finalement comprendre, Lucie Laplane, comment c'est formaliser un petit peu nos connaissances sur la biologie du cancer. On comprend qu'en fait la bascule, on a fait cette émission un peu de manière chronologique et là finalement on arrive à la compréhension du cancer presque à la fin, presque après avoir mis en place énormément de thérapies. Le point peut-être un peu important, c'est la compréhension d'abord des gènes oncogènes, c'est ça ?
Alors oui,
ça va mettre vraiment des points de bascule et les points importants.
Ça a effectivement été un point de bascule en fait avec la découverte des premiers oncogènes. Donc j'avais évoqué le fait qu'il y a eu énormément de théories et d'hypothèses autour du cancer. En fait, elles se sont aisément regroupées avec la découverte des oncogènes parce que finalement les irradiations, ça peut aussi créer des mutations. Donc en fait, il y avait plusieurs hypothèses qui étaient compatibles avec l'hypothèse que ce sont les mutations dans des gènes très spécifiques qui donnent des cancers. Et avec la découverte des premiers oncogènes, il y a eu cet espoir qu'en fait les cancers avaient une cause unifiée, quelques oncogènes, quelques gènes très spécifiques qui, quand ils seraient mutés, expliquerait l'apparition des cancers. C'était aussi très stimulant sur le plan thérapeutique, parce que si on pouvait identifier quelques gènes, alors sans doute on pourrait aussi identifier quelques traitements qui suffiraient à guérir l'ensemble des cancers.
Et en fait, ce qu'on comprend rapidement, c'est que la liste ne s'arrête jamais.
Exactement. Plus on a mis d'efforts dans le séquençage des tumeurs, plus on s'est rendu compte qu'il y a un très très grand nombre de gènes qui sont mutés dans les cancers, et que chaque cancer a un ensemble de gènes mutés très différents d'un cancer à l'autre, d'un individu à l'autre, et même parmi les cellules qui composent la tumeur, elles vont avoir des profils génétiques très hétérogènes, ce qui rend l'opportunité thérapeutique bien plus difficile.
Et on comprend aussi que la tumeur forme pas une population homogène. Il y a plein de choses dedans. Il y a notamment la question des cellules souches cancéreuses qui a émergé aussi, qui a peut-être été un moment un peu charnière où on s'est dit on a justement l'idée parfaite pour pouvoir trouver un traitement. Lucie Laplane.
Oui, alors ça a été intéressant comme mouvement parce qu'il y avait d'abord cette hypothèse génétique. Finalement, on se rend compte que les cellules sont hétérogènes sur le plan génétique, donc ça dissout l'unité. Et là vient l'hypothèse des cellules souches cancéreuses selon la
rappeler ce que c'est.
Selon laquelle les cancers sont organisés un peu comme les tissus normaux, c'est-à-dire que dans tous nos tissus, on a des cellules souches qui produisent le reste des cellules du tissu. Et les cancers seraient organisés de la même manière, si bien que pour tout cancer, on aurait un pool de cellules souches cancéreuses qui produiraient le reste de la tumeur. Et ça, c'était intéressant parce que c'était un modèle potentiellement également applicable à tous les cancers qui donnait à nouveau une cible unifiée, ce serait la cellule souche, avec un rationnel intéressant parce que ça expliquait aussi les échecs thérapeutiques. C'est-à-dire, on s'est concentré historiquement sur les cellules en forte prolifération. Les cellules souches, en l'occurrence, peuvent être plus quiescentes et donc elles peuvent échapper également par d'autres propriétés, mais c'est pas très grave, elles peuvent échapper aux chimiothérapies. Et donc, une fois qu'on s'était rendu compte que c'était elles vraiment la source du problème sur le plan cellulaire, on pourrait les cibler. Comme toutes les hypothèses, c'est un peu vrai, mais c'est aussi beaucoup faux. Et on s'est rendu compte que il y a plusieurs façons pour les cellules d'être souches. Et notamment, là encore, un grand lien avec les progrès de la biologie cellulaire. On s'est rendu compte que dans certains cancers, les cellules plus ou moins différenciées pouvaient revenir à un état souche, si bien que c'est une cible beaucoup plus difficile à saisir.
Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a beaucoup de complexité, qu'il y a des théories qui sont un peu vraies et parfois un peu fausses. Finalement, vous êtes philosophe de la biologie. À quel point ces concepts et théories un petit peu multiples ont un effet encore maintenant sur la recherche de stratégies thérapeutiques ?
Alors c'est majeur, toutes les stratégies thérapeutiques sont en réalité très indexées aux théories du cancer, et ça c'est vrai depuis le début, donc on l'a déjà vu un petit peu avec la chimiothérapie qui cherche à cibler les cellules en prolifération, et ça c'est lié à la théorie cellulaire. La chirurgie aussi elle-même est liée à l'idée que c'est une maladie locale. Donc chaque thérapie est liée à une théorie du cancer. La découverte des oncogènes, elle a permis la naissance des thérapies ciblées qui ont leur efficacité, peut-être dans un petit nombre de cancers et pour un petit nombre de patients et pour un temps limité. Mais chacune de ces stratégies thérapeutiques, elle bénéficie à un certain nombre de patients. C'est le cas maintenant avec les immunothérapies qui sont sur une conception du cancer très différente, où le rôle du système immunitaire et donc de l'organisme vu dans sa globalité est important pour expliquer l'émergence des cancers et l'immunothérapie joue sur cette fonction. Donc chaque théorie a sa stratégie thérapeutique et ce qu'on observe aussi aujourd'hui, en cancérologie, c'est une multiplication des théories qui offre une multiplication des outils thérapeutiques.
On va parler juste après sur l'immunothérapie, mais un petit point peut-être finalement sur un tournant majeur aussi de la compréhension de la biologie du cancer, c'est que on a parlé beaucoup de mutations en fait finalement de l'intérieur, mais on comprend aussi que l'extérieur, que le facteur environnemental, que les facteurs environnementaux, que le mode de vie en fait a une incidence et peuvent favoriser aussi le cancer. Eric Solari, c'est un point aussi qui est important.
Oui, là, ces 15 dernières années, on a assisté à deux tournants conceptuels en cancérologie, ce qui est incroyable quand même, simplement dans les 15 dernières années. Le premier, c'est que les progrès de la génomique ont permis de découvrir qu'on est tous bourrés de cellules avec des mutations des fameux oncogènes que Lucie évoquait.
Qu'il y ait de cancer.
Mais sans qu'il y ait de cancer, voilà. Donc en fait, on vit avec ces mutations. Donc là encore, ça remet en cause qu'est-ce que c'est exactement qu'un cancer ? À quel moment une cellule devient cancéreuse ? Ça, c'est une question qui reste relativement floue aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un problème conceptuel très important. Et le deuxième tournant conceptuel, c'est l'émergence de l'immunothérapie efficace à partir de 2011, premier essai démonstratif, qui finalement démontre qu'on peut mobiliser les ressources de l'organisme plutôt que de taper directement sur la cellule tumorale. Changement de concept complet. Donc, parallèlement à ça, on change notre perception même des causes même de la maladie. C'est-à-dire que on voit bien qu'on est tous bourrés de cellules avec des mutations oncogéniques qui ne donnent jamais de tumeur du merci au cours de la vie. Mais à un moment donné, il y en a quand même une qui émerge. Et donc, c'est peut-être pas simplement la mutation oncogénique qui fait ça, mais des facteurs d'environnement autour. Et la démonstration, je peux la résumer avec une expérience qui m'a toujours fasciné, qui a été faite dans les années 80 en fait, mais à l'époque personne n'avait cette vision. C'est une chercheuse américaine qui s'appelle Mina Bissell qui a utilisé un virus inducteur de cancer chez le poulet. Donc elle a injecté son virus, mais ça n'a pas déclenché de tumeur. Elle s'est étonnée et en même temps, elle a eu l'idée de frotter la deuxième aile du poulet avec un produit qui déclenchait de l'inflammation. Et pop, la tumeur a émergé là où il y avait de l'inflammation. Donc il faut qu'il y ait un inducteur, un oncogène, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un promoteur. Il y a quelque chose qui promeut. Quand on fume, quand on s'expose au soleil, etc., on utilise un promoteur en quelque sorte, un truc qui accélère le phénomène et qui va permettre ou qui va favoriser la transformation réelle d'une cellule en une cellule tumorale. Donc voilà, il y a cette évolution conceptuelle qui va guider maintenant notre nouvelle façon d'utiliser les différentes thérapeutiques dont on a parlé.
On commence à parler justement des facteurs un peu environnementaux. Benjamin Derbès, est-ce que justement la mise en place ou la dominance des risques individuels n'ont pas camouflé un peu les risques plus collectifs et en fait les inégalités sociales aussi derrière le cancer. C'est-à-dire à force de regarder forcément uniquement à l'échelle de l'individu, voire d'une partie de l'individu, est-ce qu'on n'oublie pas en fait que le cancer est une maladie aussi d'inégalité ?
Oui, tout à fait. Déjà, les modes de vie, les comportements individuels, ils sont sociaux. C'est-à-dire qu'on ne vit pas, on n'a pas les mêmes modes de vie, les mêmes styles de vie selon la position que l'on a dans l'espace social. Et on le voit, le tabagisme, il est aujourd'hui plus répandu dans les milieux sociaux moins favorisés, etc. Donc voilà, déjà ça c'est un premier point. Et c'est vrai que la santé publique a tendance à beaucoup accentuer sur l'alimentation, le tabagisme, l'alcool et des modes de vie. Et peut-être pas beaucoup, mais ça change actuellement sur la question de l'environnement, des causes environnementales. Alors ça, c'est une vieille question, parce que le fait, les hypothèses sur le fait que le cancer soit une maladie de la modernité urbaine, liée à la pollution, au stress, etc.
Aux villes aussi, il y avait aussi les villes qui pouvaient provoquer justement le cancer.
Exactement, c'est assez ancien. Et en fait, paradoxalement, aujourd'hui, les taux de survie, etc., on meurt plus du cancer à la campagne qu'en ville. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question d'accès aux soins, et puis les personnes qui sont, les urbains ont une éducation, une proximité avec les normes sanitaires qui est plus forte. Donc c'est voilà. Mais au-delà de ce paradoxe, eh bien aujourd'hui il y a tous les travaux qui sont sur les cancérogènes, les produits phytosanitaires, etc., les expositions professionnelles qui ont été longtemps, en France en tout cas, longtemps mises de côté, en fait, qui ont occupé une place secondaire dans la prévention des cancers. Ouais.
Il y a une autre histoire aussi qu'on pourra pas aborder très longuement, mais il y a aussi toute la question de l'après-cancer, en fait, qui devient un sujet. On a parlé de ces théories, finalement, extrêmement agressives, qui laissent énormément de séquelles. Il y a maintenant le soin, où il y a eu depuis, ça ne date pas d'hier, mais cette problématique un petit peu sociale de soigner maintenant le patient, en fait, finalement blessé, Benjamin Darbès.
Oui. Bah, effectivement, on commence à avoir des personnes qui vieillissent qui vivent longtemps après avoir été soigné d'un cancer, donc notamment de cancer pédiatrique. Donc la préoccupation, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils deviennent, et on se rend compte qu'il y a effectivement des toxicités, des effets secondaires, qui peuvent apparaître à long terme. Donc il y a nécessité de mieux connaître ça, et puis de mieux connaître aussi les effets sociaux du fait d'avoir eu un cancer. Là, on a parlé de l'accessibilité du crédit, du retour à l'emploi. Ça, c'est des choses qui sont absolument majeures, et qui freinent la réinsertion des malades dans leur vie après un cancer. Et aujourd'hui, il y a 3 millions de personnes qui vivent en France avec un cancer ou qui ont eu un cancer. Aux États-Unis, c'est 18 millions. Donc cette problématique-là, c'est une problématique sociale majeure, et qu'il va falloir prendre en compte aussi dans les politiques de lutte contre le cancer. C'est déjà un peu le cas. Il y a des lois qui ont été votées, la loi du droit à l'oubli en 2022. Mais voilà, il y a encore du chemin à faire.
Dernière petite question pour vous deux. On sait que les découvertes sur le cancer et surtout sur sa lutte ont lieu finalement tous les 50 ans. On a en 1900 les radiations, en 1950 la chimiothérapie, en 2000 la thérapeutique ciblée et l'immunothérapie. Je vous pose une question un petit peu impossible à vous deux. Quelle sera la prochaine ?
Alors, moi, j'ai l'impression que on peut progresser maintenant vers la prévention et le dépistage, en s'appuyant sur... parce qu'à chaque fois, c'est une découverte technologique qui génère une découverte conceptuelle et pratique et opérationnelle à la fin. Prévention et dépistage, parce que jusqu'à maintenant, on se contentait d'observer avec des données épidémiologiques descriptives. Aujourd'hui, on dispose de bases de données et d'outils d'intelligence artificielle et du machine learning qui vont nous permettre d'analyser des bases de données extrêmement complexes. Vous évoquiez tout à l'heure les facteurs d'exposition. Les facteurs d'exposition, ils sont quantitativement énormes. Enfin, si on les analyse un par un, on s'en sort pas. Si on arrive à avoir, à l'aide des outils d'intelligence artificielle, une espèce de profil de risque d'exposition, on va pouvoir progresser. Et à ce moment-là, on va pouvoir même individualiser la prévention et le dépistage. Et c'est vers ça qu'on va tendre. Donc, l'enjeu va être de faire circuler les données de recherche sur le cancer à travers les pays, ce qui aujourd'hui n'est pas simple, et de les associer à des données d'exposition, surveillance de la terre, des sols, etc., des villes, des milieux, et d'extraire de ça des algorithmes prédictifs qui vont nous aider à personnaliser la prévention et donc à gagner vraiment du terrain dans la maladie.
Même question, Lucie Laplane, 2050, du coup, quelle innovation pour le cancer, ou avant?
Moi, je dirais que ce que l'histoire nous enseigne, c'est en fait, il faut une multiplication des théories du cancer, parce que chacune apporte des outils qui sont efficaces pour un petit nombre de patients, et donc c'est en multipliant les théories et les outils qu'on va guérir mieux les cancers. Et plus généralement, je dirais que c'est l'idée que le cancer est multidisciplinaire comme objet qui pourrait porter le plus de fruits.
Merci à vous trois, merci Lucie Laplane, Eric Solari, Benjamin Darbès d'être venus nous raconter l'histoire de la découverte du cancer. Cette émission a été préparée comme toujours par Loïc Dutoit, à la réalisation c'est Sam Bakias, et aujourd'hui à la technique c'est Mineta Diawara. Vous pouvez retrouver cette émission et les autres découvertes scientifiques qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. On se quitte en musique sur Cancer de My Chemical Romance.
of water, cause my lips are chapped and faded. Call my Aunt Marie. Help her gather all my things and bury me in all my favorite colors. My sisters and my brothers still. I will not kiss you. Turn away, cause I'm awful just to see. Cause all my hair's abandoned, all my body, all my agony. Know that I will never marry. Baby, I'm just soggy from the chemo, but counting down the days to go. Just ain't living, and I just hope you know.